Pour moi, une des solutions dans qu'est-ce qu'on peut faire, nous, libristes, je recite Ivan Illich, que je citais d'ailleurs ce matin aussi, dans un ouvrage qui s'appelle La convivialité, parler d'outils conviviaux et qu'est-ce que c'est que des outils conviviaux. C'est un outil qui doit être générateur. Donc ça date de, vous voyez, 73, hein, donc l'année après le rapport Milhaud, d'ailleurs. Donc un outil convivial doit être un outil générateur d'efficience sans dégrader l'autonomie personnelle, qui ne doit susciter ni esclave ni maître et qui doit élargir le rayon d'action personnelle. Si vous prenez n'importe quel outil numérique proposé par Google ou Facebook, aucun ne coche toutes ces cases. Vous prenez Twitter, vous prenez même des applications type Uber, etc. Aucun ne coche toutes ces cases. Si vous prenez du logiciel libre, certains en cochent, d'autres pas, enfin ne cochent pas toutes. Mais en tout cas, ça, c'est pour moi un bon filtre pour reconnaître sur est-ce qu'on est sur la bonne voie ou pas quand on produit un outil. Voilà, est-ce que quand Framasoft fait Peertube, est-ce que c'est un outil générateur d'efficience sans dégrader l'autonomie personnelle? Je pense que oui. Après, s'il y a du non, on pourra en discuter, mais je pense que oui. Est-ce que ça suscite ni esclave ni maître? Effectivement, il n'y a pas d'esclave. Si vous vous sentez esclave, vous pouvez installer Peertube. Alors, du coup, vous allez avoir un problème qui est celui de la prolétarisation. C'est-à-dire qu'on vous a enlevé votre savoir pour savoir comment installer Peertube où vous n'avez pas facilement accès parce que les libristes ne sont pas toujours les meilleurs pédagogues. Mais vous n'êtes pas esclave. Vous pouvez sortir de cette condition quand même relativement facile. Et vous pouvez, par contre, du coup, contrôler votre instance Peertube, mais vous n'êtes pas maître du réseau du fait divers de Peertube. C'est la même chose avec Mastodon ou avec Mobilizon, qui est un outil qu'on est en train de développer en ce moment. Et il doit élargir le rayon d'action personnelle. Donc ça, pour moi, c'est un sujet qu'on s'était pas, enfin une question qu'on s'était pas beaucoup posée. C'était est-ce que nos outils apportent réellement quelque chose ou pas? Quand je dis nos outils, c'est nos outils libristes, hein, c'est pas les outils Framasoft. Mais du coup, on est en train de faire une sélection un petit peu drastique dans ce que Framasoft propose, de façon à ne travailler que sur des outils qui élargissent le rayon d'action personnelle. Et je vais terminer un peu d'autopromo quand même. Je suis payé pour ça. Hein. Voilà, dans cette réflexion-là, dans le fait, ce que disait G tout à l'heure, de réfléchir à des imaginaires positifs du numérique. On a lancé, donc suite à des Googlisons Internet, une campagne qui s'appelle Contributopia, que je suis déjà venu présenter ici l'an passé, donc je ne vais pas le refaire maintenant, mais qui vise quand même à un certain nombre d'objectifs, et notamment d'inciter à mieux comprendre et à mieux sensibiliser le public sur ce que le logiciel libre a de particulier. Exactement comme les AMAP ont dû expliquer au départ. Mais en fait, c'est quoi une AMAP? À quoi ça sert? Comment ça marche? Moi, ce que je trouve fabuleux dans les AMAP, c'est que ça crée des associations. En étant directeur d'une association, je suis de facto militant associatif. Et en tant que militant associatif, voir des gens qui créent des associations, que ça soit au travers de chatons, que ça soit la FFDN, que ça soit d'autres types d'associations qui peuvent se créer, les JDLL, sont organisées entre autres par l'ALDIL, qui est une association, et la Maison des Rancis, qui, me semble-t-il, est aussi une association. Donc, le fait de penser en hors cadre du marché, en tout cas, j'ai rien contre l'économie de marché, beaucoup plus contre l'économie capitaliste, mais le fait de penser hors cadre est, à mon avis, une des pistes qu'on peut avoir. La difficulté, c'est que, pour moi, et c'est un point de vue très personnel, cet effondrement est inéluctable, enfin, tout ce qu'on vient de vous dire, pour les raisons qu'on a évoquées. On a déjà sauté hein, du troisième étage, donc on va tomber, et on va se faire plus ou moins mal, mais en tout cas, c'est inéluctable. Et donc, ce qui est intéressant à notre sens, puisque je reprends complètement ce que disait G tout à l'heure, c'est de penser à l'après. Et dans l'après, ce qui me paraît intéressant, c'est qu'on se fiche effectivement, donc je le redis ici publiquement, on se fout du logiciel libre. Aïe, ça fait mal quand même. Mais on se fout du logiciel libre. L'important, c'est les usages et les pratiques que ça change cognitivement, quasiment, chez nous. Et donc, dans ces pratiques et ces usages, moi, je trouve qu'il y a plein de choses sur lesquelles, finalement, les libristes sont plutôt bons. Mais quand je dis plutôt, au royaume des aveugles, les bornes sont rois, hein, c'est la question des communs. La question de la collaboration, donc effectivement, on est capable de travailler parfois à plusieurs centaines de personnes qui ne se sont jamais vues sur un même logiciel. C'est assez rare, hein, en fait. Hein. Je rappelle que le logiciel libre, le plus souvent, c'est un Pékin tout seul. Mais globalement, si on veut le faire, on sait le faire. S'il y a une envie de contribution, ça se passe plutôt bien. D'autre part, on est très mauvais sur la gestion des collectifs, mais on est plutôt bon pour travailler collectivement. Et donc, je trouve que, là encore, le logiciel libre nous donne des billes pour demain, si jamais il n'y a plus d'ordinateur. Donc, encore une fois, tiens, les dessins de David Revoy, qui est peut-être dans la salle, je crois qu'il fait sa conf en même temps. Mais on ne voit pas forcément de gens avec des ordinateurs ou autres. Donc, on est sur un monde, là, on l'a voulu quand même relativement kawaii, c'était pour éloigner la Startup Nation de notre site. Parce que, voilà, on s'est dit, si on dégooglisons Internet, a ramené plein de gens qui voulaient juste consommer les services. Et en fait, on veut des gens qui contribuent au service. Donc, ce que vous êtes sans doute pour la plupart dans la salle, des contributeurs et des contributrices au libre en général. Mais la problématique, c'est que vis-à-vis de l'extérieur, les gens venaient consommer du Framadat, du Framapad et du Framaform exactement comme ils consomment du Google Form, du Google Agenda, etc. Et donc, cette notion de se dire, ben, on se rassemble et finalement, on fait des choses à une échelle qui est tout à fait raisonnable et où on ne vise pas la croissance, on se l'est appliqué à nous-mêmes. Notamment, on a décidé d'arrêter la croissance de Framasoft. J'en ai parlé à différentes occasions. Mais donc, ça veut dire que nous, on a décidé d'arrêter de grossir. Alors moi, pas forcément, ça va dépendre de ce que je mange. Mais globalement, cette idée, elle est vraiment là de se dire, si on continue comme ça, si tous les gens continuent à nous pousser à faire plus, etc., on va rentrer dans un système qui ne sera pas celui du capitalisme, mais on va rentrer dans un système où on maintient la consommation. Et je trouvais que ce que disait Alexandre Monin dans la conf d'avant était très juste. C'est-à-dire que finalement, il peut y avoir un effet rebond où même si vous pensez économiser, donc en allant sur Framasoft, vous pensez faire mieux, vous renforcez le pouvoir de Framasoft qui, du coup, devient un élément de fragilisation et de tension dans un système qui est amené à s'effondrer. Et le jour où il s'effondrera, ben, il vaut mieux avoir des chatons qu'avoir un Framasoft. L'autre point qui est très personnel, c'est que je pense que dans ce qui peut nous sauver, il y a la question de la culture. Alors, j'ai mis un grand C, je le pense plutôt avec un petit C, mais la question de savoir partager nos connaissances et de les valoriser. Et le dernier point, c'est celui de la confiance, où on est pour l'instant pas bon en tant que libriste sur comment est-ce qu'on donne confiance en nos outils, comment est-ce qu'on donne confiance dans les personnes qui vont les utiliser. Et voilà, ce sera un sujet sans doute à travailler, parce que entre libristes, il n'y a pas de souci, on a confiance entre nous, mais vis-à-vis de l'extérieur, enfin moi, tous les jours, je suis sollicité par des gens qui viennent me dire « Ah oui, mais ce serait vachement bien, on vient de monter une association, je sais pas, qui est une bagagerie sociale, on a besoin de gérer des fichiers, on a besoin de gérer un agenda, etc. » Et nous, on leur dit « Bah non, Framadrive est fermé. » Mais vers quoi est-ce qu'on les renvoie? Comment est-ce qu'on les renvoie? Donc c'est entre autres le projet chaton, mais aujourd'hui ces gens-là ne connaissent pas les chatons, et donc il faut leur donner confiance dans les chatons. Et donc là aussi, pour moi, dans un monde post-effondrement, un monde où même où il n'y aurait pas d'ordinateur, le fait d'avoir travaillé cette question de la confiance et de ne pas juste l'attendre comme on attendrait El Leader Maximo, mais plutôt comme on va aller rencontrer les gens, on va se parler, on va boire des coups ensemble, et une solution de pouvoir mieux rebondir après l'effondrement.
Bah, du coup, oui, la conclusion, ça, c'est ce que j'avais mis à la fin de mon article, qui était un peu déprimant aussi sur l'effondrement. Bah, en gros, c'est tout ce qu'on a dit. Donc, les valeurs en fait, qui sont véhiculées par le capitalisme fonctionnent bien dans un univers d'abondance, c'est-à-dire ce que disait Pierre-Yves, quand on considère que les matières premières sont gratuites et infinies. Dans ce cas-là, la compétition à tous les étages, ça marche bien. Enfin, en tout cas, ça marche bien pour ceux qui gagnent. Dans une société de la rareté, pardon, et ben, ce sera probablement plus l'entraide qui marchera mieux. Donc, il y a des théoriciens qui ont étudié le sujet, comment ça se passe. On a toujours une vision apocalyptique en fait des mondes où vous avez un effondrement des services publics, un effondrement de l'État, ce genre de choses. C'est pas forcément le cas. Il faut en tout cas garder espoir que ce soit pas le cas. Mais le mec tout seul dans son bunker avec son fusil, à la rigueur, c'est une cible, quoi, parce qu'on sait qu'il a des réserves en dessous. Des gens qui essayent de survivre en se serrant les coudes, en recréant un semblant de communauté Localement, c'est probablement ceux qui, à mon sens, en tout cas, ont les meilleures chances de s'en sortir. Et d'autant plus aussi que moi, personnellement, m'en sortir tout seul avec un fusil dans le bunker, franchement, ça ne m'intéresse pas. Si je veux m'en sortir, c'est pour vivre des trucs avec des gens. Donc voilà, s'il y a un truc qu'on peut apprendre en tant que libriste et qu'on peut essayer d'apprendre entre nous et puis d'intégrer le plus de choses là-dedans, c'est les valeurs d'entraide, c'est les valeurs de contribution et de voir comment... quel que soit le contexte, parce qu'on ne sait pas comment ça va tourner, mais de savoir comment est-ce qu'on va réussir à s'en sortir, quoi.